1h05, la dernière partie de la Grande Table, Raphaël Bourgois.
Oui, Antoine, vous l'avez déjà présenté, notre invité est Scott Attran. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Scott Attran ou Scott Attran d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez ?
Scott Attran.
Scott Attran, on va vous franciser votre nom pour cette émission. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez fondé aussi un centre de résolution des conflits insolubles. Ça vous laisse du travail.
Oui, à Oxford. Oui.
À Oxford. Et vous publiez Au lien qui libère, l'État islamique est une révolution. On va parler évidemment de cet ouvrage qui propose de prendre au sérieux, en quelque sorte, le projet politique de l'État islamique, de Daesh, du groupe État islamique. Peut-être que il y a quelque chose à dire encore de la façon dont on dénomine évidemment, Daesh, ce projet. Et ça, on va en discuter avec vous. Et on va discuter aussi avec Hocham Daoud. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes également anthropologue, ingénieur de recherche au CNRS. Vous êtes l'ancien responsable de l'antenne de l'Institut français du Proche-Orient en Irak, membre de l'Observatoire des radicalisations à la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme et enfin spécialiste des textes de propagande de Daesh. D'ailleurs, vous étiez venu nous parler de Enseigner la barbarie, c'est ça, qui est ce texte un peu fondateur ou en tout cas de projet politique, manifeste politique de Daesh. Vous êtes donc deux anthropologues avec des terrains assez proches et c'est important, la question du terrain, et elle est omniprésente dans votre ouvrage, Scott Attran. Mais d'abord, je voulais vous poser une question. Pourquoi faut-il prendre au sérieux le projet politique de Daesh ?
Parce que c'est le mouvement contre-culturel le plus puissant au monde, et peut-être le plus puissant depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui attire des gens de presque 100 pays, des volontaires, et qui domine le discours dans le monde musulman aussi que dans le monde occidental. Si on est pour ou qu'on est contre, c'est l'État islamique qui en établit les paramètres de discours politique actuel.
Alors je signale, on vous entend, vous parlez parfaitement français, mais il y a quand même à vos côtés un interprète, Robert Wolfenstein, au cas où vous ayez besoin pendant cette émission. Voilà, que nos auditeurs ne s'étonnent pas, hein, si tout d'un coup vous parlez en anglais et qu'on entend la voix de Robert Wolfenstein. Vous venez de le dire, c'est important, c'est un projet politique, vous avez même employé le terme de contre-culturel. Alors, c'est vrai que la révolution, c'est un terme parfois en France qu'on prend... Voilà, on a un a priori positif du fait de notre histoire pour ce qui est une révolution. Je revenais sur un ouvrage qui est apparu récemment, co-signé par Hamid Bozarslan. Qu'est-ce qu'une révolution ? Il donne cette définition. Combat de légitimité entre des institutions qui ne parviennent plus à produire l'obéissance de ses sujets et à l'inverse, des acteurs sans légitimité institutionnelle qui obtiennent voix au chapitre et mettent en place une autorité de fait. C'est ça qui se passe avec Daesh, des institutions qui ne parviennent plus à établir leur autorité et des individus qui n'ont pas d'autorité institutionnelle mais qui, eux, on voit au chapitre.
C'est une tentative révolutionnaire. Il y a des institutions qui existent encore en Occident, heureusement, qui accomplissent plus ou moins leurs tâches.
Mais et Syrie, en Irak ?
Non, en Syrie et en Irak, presque plus. C'est des États qui existent presque plus. On est en train de reconstruire une nouvelle sorte de société. On ne sait pas comment ça va se résoudre. J'étais justement sur le champ de bataille il y a quelques semaines. C'est la première phase de l'offensive de l'armée irakienne pour la reconquête de Mossoul, qui ça marche assez mal pour le moment.
Ah, pourtant, le ministre de la Défense, Le Drian, en France, a dit qu'il pensait que la reconquête était possible d'ici la fin de l'année. Vous n'y croyez pas ?
J'ai parlé avec des généraux qui commandent les troupes de l'armée irakienne il y a 2 jours. Ils m'ont dit que ça va très mal pour plusieurs raisons. D'abord, pour les raisons sectaires, des quotas qui sont imposés à ces généraux mêmes qui veulent chercher des meilleurs talents comme commandant des troupes, et ils sont obligés à prendre des Kurdes, un certain nombre de Kurdes.
Obligés par qui, pardon ?
Par le gouvernement, et un certain nombre de chiites, un certain nombre de sunnis, et chaque groupe, entre eux, ils proposent leurs amis, membres de leur famille, et c'est pas très prometteur pour l'avenir. Alors je lui ai demandé, et Ramadi, vous avez finalement réussi à prendre Ramadi? Oui, mais il a dit parce que Ramadi n'existe plus. Parce que Ramadi était rasé, il y a quelques bâtiments qui existent, et on peut pas faire ça à Mossoul. Parce que c'est une ville de millions d'habitants, Et là, si on le fait, si on le rase, comme on a fait à Grozny, on a des problèmes pour les générations à venir. Il n'y a pas seulement Daesh, peut-être on va en terminer avec Daesh en tant que tel, au moins là, au sein du nationalisme sunnite en Irak et en Syrie, mais on va créer Al-Qaïda 3.0.
Oui, c'est un point important de votre livre. En terminer avec Daesh, et sans prendre en compte la dimension politique, évidemment, sans proposer d'autres récits politiques, ce n'est pas régler le problème. Antoine Mercier.
Oui, c'est vraiment un livre qui est à la fois court et un livre choc, parce qu'il va à l'encontre, il faut bien le dire, de l'opinion commune, en tout cas en France, répandue en France. D'une part, tout ce que vous dites sur le fait que Daesh reculerait, ce qui n'est pas si évident, mais plus profondément sur le fait de savoir à quoi nous avons affaire. Et le sous-titre du livre, c'est « Il est de notre devoir de comprendre ». Donc vous nous dites, attention, comprenons ce à quoi nous avons affaire. Ce ne sont pas uniquement des gens qui sont des accès, des barbares, ou qui se jetteraient par désespoir social dans une idéologie qui est de toute façon sans avenir. Au contraire, il y a quelque chose à considérer à l'intérieur même du système de l'État islamique, avec sérieux. Et ce quelque chose, je ne dirais pas que vous le valorisez, mais enfin malgré tout, du fait que vous preniez le contre-pied de l'opinion générale, vous en faites quand même quelque chose de substantiel et qui a une structure, qui a une force interne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est précisément la force interne de l'État islamique ?
Scott Attran.
Oui, mais il faut sortir un peu de la particularité de la scène française. Par exemple, les points chauds ici sont des lieux marginalisés, défavorisés, des bidonvilles, des banlieues, des quartiers sensibles et des prisons. En Angleterre, c'est plutôt les points chauds sont des universités. En Afrique du Nord, c'est autre chose. J'ai reçu un coup de téléphone du directeur de l'école médicale à Khartoum me disant que 17 de ses étudiants, les meilleurs étudiants, tous de classe aisée, sont allés se joindre à l'État islamique. Donc, il est nécessaire de comprendre pourquoi ils font appel et ils attirent une vaste gamme de personnes de plusieurs nations et de n'importe quelle position de la vie. On peut expliquer pourquoi ils le font en France dans ces points sensibles. Mais leur message, c'est un message de révolution, d'utopie, de changement moral. Pour moi, la révolution, il y a plusieurs raisons pour une révolution. Moi, je ne m'intéresse pas au terrorisme. C'est une notion qui n'est pas intéressante du point de vue scientifique.
Vous dites qu'elle est trop floue, en fait. Ça recouvre
trop de réalité. C'est comme les armes. C'est comme étudier les armes. Qu'est-ce que ça rapporte ? On va étudier les fusils. C'est une méthode. C'est quelque chose utilisé. Dans ce cas, pour moi, des mouvements politiques révolutionnaires très importants. Moi, je m'intéresse à la montée et la chute des civilisations qui, pour moi, dépendent plus sur les idées, l'élan des idées, qui sommes-nous, pourquoi nous existons, que sur des moyens matériels. Alors pourquoi l'État islamique existe, pourquoi ça se développe, pourquoi ça s'étend, pourquoi ça domine le discours politique dans le monde, c'est parce qu'il a un élan, hein, des idées, de spiritualité, qui en trouve d'ailleurs sur le front. Hein. Je fais des expériences sur le front avec des soldats de Peshmerga, de PKK, des armées irakiennes, de Nusra, de Nusra Qaïda, d'État islamique. Et on voit la force de cette spiritualité très importante. Et on vient de faire des expériences ici en Europe où on montre plus qu'on croit dans la force spirituelle de ces gens, plus ça paralyse la capacité de se sacrifier pour ses propres valeurs ici.
Alors, en effet, Scott Attran, ce livre, L'État islamique est une révolution, est construit en deux parties. Une première partie, vous établissez finalement votre idée, votre thèse. Une seconde partie qui est beaucoup plus construite autour de ce terrain que vous avez mené. Et ce terrain est parfaitement connu par Hocham Daoud, qui a lu votre livre et à qui je cède la parole.
Oui, bonjour, je salue Monsieur Attran. C'est vrai, on a de la même maison de CNRS, nous étions quasiment sur le même terrain et je crois l'éditeur et l'éditrice, ils savent pas, nous avons un autre point commun que tous les deux nous sommes moustacheux. Donc maintenant, revenons au livre. Je salue un autre point que c'est un livre aussi issu d'une recherche de terrain, ce qu'on fait maintenant de moins en moins. Il y a une avalanche de livres, y compris à Paris. On a vu tellement sur Daesh, mais assez souvent à partir de l'Hexagone, à partir de l'Europe, etc. C'est une forme de construction un peu qui se fait par des informations internet, journaux, etc. Des fois même, c'est vrai. On peut comprendre qu'il pouvait aller sur le terrain de Daesh, ou ne serait-ce que proche, pour faire du travail. Et donc, je salue aussi cet aspect-là. Troisièmement, c'est M. Attran travaille avec une équipe de fois de chercheurs locaux. Certains même, ils sont parmi mes propres amis qui travaillent avec lui. Donc, je connais aussi la qualité à ce niveau-là. Le livre, c'est vrai, ça a été construit en trois parties. Une partie presque la déclaration qui était largement diffusée mondialement. Daesh est une révolution. Deuxièmement, c'est le journal de terrain, si je peux dire, une note de terrain. Et troisième, c'est votre audition devant le Conseil de sécurité en tant qu'anthropologue prestigieux, le grand demande. Il vous interroge sur ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? Maintenant, je dis la chose, parlons en tant que chercheur. J'essaie de dire deux, trois choses, si vous le permettez. À partir de titres, moi, je trouvais peu de choses ou pas sur Daesh. En fait, vous faites comme notre maître Lévi-Strauss, vous faites un regard éloigné. Vous essayez de comprendre un petit peu pourquoi Daesh a cette force d'attraction, de sublimation à partir de cette idée Daesh. Donc, en fait, c'est un livre davantage sur la genèse, un peu, je dirais, de la djihadisation, un peu, une nouvelle version d'âge, qui travaille un peu la société européenne et Afrique du Nord. Donc, moi qui travaille sur la question de tribus en zone de Daesh, j'ai trouvé peu ou pas de choses sur Daesh proprement parlé.
Donc, on commence là-dessus et on laisse répondre Scott Attran, parce que vous aviez trois points. Je pense qu'il va falloir les prendre un par un au Cham Daoud, Scott Attran. Donc sur cette question, c'est l'idée Daesh qu'on a à travers plus que la réalité matérielle, finalement, dit au Cham Daoud.
Oui, j'aurais pu écrire un livre sur le fonctionnement de Daesh, la structure de Daesh, comment ça s'est formé, le Daesh, parce que je suis très familier avec ça, mais c'est pas ce qui m'a intéressé. C'est de voir, comme monsieur dit, de prendre une vision plus éloignée dans l'histoire de ce qu'il représente Daesh comme mouvement politique dans la coulée des développements des civilisations. Et moi, je vois dans ce qui est devenu Daesh, on peut parler des différences entre Al-Qaïda et Daesh parce que c'est très important, parce qu'il y a une vision beaucoup plus utopique et apocalypse, qui Bin Laden lui-même s'opposait à la vision de Zarqawi ou de Omar ou de Abu Bakr al-Baghdadi. Mais je le trouve Daesh beaucoup plus qu'Al-Qaïda dans le coulée des révolutions de la Révolution française, la révolution des 1848, la révolution bolchevique, la révolution des national-socialistes surtout.
Qu'est-ce qui est commun à tous ces événements dont vous parlez finalement? Le point commun?
C'est l'idée de reconstruire l'ordre moral du monde. On accuse souvent Daesh du nihilisme, par exemple. C'est une épithète dont on les a affublés afin d'ignorer la gravité morale et le programme politique profond qui représente Daesh.
Oui, Olivier Roy, notamment en France, utilise volontiers
Mais Daesh aussi accuse l'Occident d'être un nihiliste au sens propre, c'est-à-dire asexué, sans normes, sans morale, sans vrai principe
métaphysique. Il n'y a plus de vérité là-dedans, c'est ça que vous dites?
C'est un chassé-croisé qui en dit long de l'aveuglement de deux côtés sur ses programmes et sur le sens politique, leur sens existentiel.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
13h09 sur France Culture, on est avec Scott Attran qui publie « L'État islamique est une révolution » pour discuter avec lui un autre anthropologue, Hocham Daoud, qui vous a d'abord interrogé sur ce rôle, cette importance que vous donnez à l'idée de Daesh, peut-être au détriment de la matérialité, même si vous l'avez dit, Scott Attran, vous pourriez écrire là-dessus. Et je crois, Hocham Daoud, que vous aviez d'autres points sur lesquels vous vouliez entendre Scott Attran.
Oui, si je m'approche en tant qu'anthropologue, ça m'intéresse la question de terrain, la méthodologie, l'approche, comment vous avez opéré, travaillé sur le terrain. C'est vrai qu'en regardant, c'est davantage c'est un journal d'évaluation politique qu'une approche un peu de méthodologie de travail. Vous pouvez le prendre comme d'écouter un peu je suis assoiffé pour comprendre comment vous avez travaillé. Et de l'autre côté, c'est vrai, c'est une appréciation. Ma petite critique à ce moment-là, vous vous êtes cantonné simplement sur une partie de Front Kurde. Uniquement, c'est le côté de Massoud Barzani. C'est pour rapprocher un peu la scène par rapport à ceux, celles qui nous écoutent. Il y a en gros trois fronts en Irak. Un front gouvernemental, un front kurde de Massoud Barzani, deuxième front de Jalal Talabani et les autres. Or, le front kurde est parti de la départ divisé. Jalal Talabani, ils étaient avec le gouvernement contre Daesh. Or, Massoud Barzani l'attendait. Là, je vois où je sens, dans votre écrit, votre texte, il y a un appel à soutenir simplement cette partie de front, sans s'interroger. Pourquoi ce front-là, il n'était pas en guerre depuis le 10 juin? Pourquoi il attendait? Moi, j'étais à Erbil, vous n'étiez pas au moment que Daesh a attaqué. Ils étaient à 13-14 kilomètres de la ville. J'ai vu comment les villes sortaient et quittaient. J'ai vu l'effondrement de toute la ligne de défense de Peshmerga. J'ai vu comment Sinjar a été repris, le massacre qui était produit. J'ai vu le récit, je le marquais, je l'écris, le moment venu, je l'écrirai. Mais je souhaitais qu'il y aurait un peu dans des livres sur tous ces aspects-là que je ne trouve pas. Et en fait, c'est ça qu'il manque un petit peu. Et j'ai d'autres points sur la question de l'approche et méthodologie.
On y reviendra après. Scott Atran, ce que dit Hacham Daoud, c'est on reste. Il y a une complexité géopolitique évidemment très très importante dans cette situation. Pourquoi s'être concentré sur un point simplement?
Parce que d'abord, dans le premier chapitre, je voulais donner une vision plus globale de comment se situait l'État islamique dans l'histoire des civilisations et de l'histoire du mouvement révolutionnaire. Dans le deuxième, c'était plutôt un point pointilliste. Je voulais donner le détail d'une seule bataille sur le fond. Ce n'est pas parce que je soutiens ou je ne soutiens pas le gouvernement régional kurde, et surtout pas la famille Barzani, ou Talabani d'un côté, ou des autres parties, les autres parties du front d'Irak ou de Syrie. Je voulais juste savoir, répondre à une question qui a posé le président des États-Unis. Dans un discours en septembre, dans une interview en fait à CBS, en septembre 2014, le président Obama a repris l'analyse de son directeur d'intelligence qui était James Clapper en disant le problème principal que nous avons affronté avec l'État islamique, c'est qu'on a surestimer la capacité de l'armée irakienne de en finir avec, et on a sous-estimé la capacité de les forces de Daesh. Et il a conclu en disant, mais comprendre la volonté de se battre, c'est impondérable. Donc, j'ai décidé avec mon équipe d'aller sur le terrain, sur le front, de faire des expériences psychologiques sur cette capacité, cette volonté soi-disant impondérable, pour montrer que c'est bien pondérable. Et on a développé avec mon équipe des expériences, et on le fait maintenant aussi en neuroimagerie, pour montrer qu'est-ce que ça signifie la volonté de se battre. Et pour moi, c'était pas... ce qui était important, c'est d'avoir un petit laboratoire. Parce que la plupart des travaux, même de terrain, sur ces questions, ce n'est pas avec les populations en conflit direct, c'est avec les populations susceptibles, les populations d'appui. La plupart des étudiants, plus de 80% des études, c'est avec des étudiants, qu'est-ce qu'ils pensent, ou des autres populations, qu'est-ce qu'ils pensent. Et même si on réussit à avoir des études directes sur le terrain, il y a un vaste écart entre l'expression de la volonté de faire quelque chose et l'actualité, l'activité de faire quelque chose. Alors, sur le fond, cet écart n'existe plus. Je suis avec les soldats de l'État islamique, je suis avec les soldats d'ailleurs avec Nusra, je suis avec les soldats de PKK, de YPG, de Peshmerga, de PUK, de tous. Et puis, on utilise les mêmes expériences, les mêmes matériels et méthodes pour voir de tous ces groupes de combattants qui sont aptes à se sacrifier jusqu'à la vie, jusqu'à la torture, jusqu'à le sacrifice de la famille. Et en sachant ça, on peut savoir à quel point ils sont forts ou pas, et comment, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est nécessaire pour les battre ou pas.
C'est quoi le palmarès, juste, puisque vous nous donnez tous ces combattants sur le terrain par rapport aux critères que vous avez utilisés?
Bon, donc, il faut dire, il y a deux prédicteurs principaux de la volonté de se sacrifier. La première, c'est la fusion avec le groupe. On a des méthodes très simples, on le fait sur l'iPad ou sur l'iPhone et aussi sur papier. On a deux cercles, le moi et le groupe. Et ils ne le touchent pas. Puis les deux cercles touchent. Puis ils s'embriquent. Puis ils s'embriquent plus et puis le moi est totalement dans le groupe. Ceux qui choisissent le dernier, le moi dans le groupe, agissent de façon complètement différente que tous les autres. Mais dans le gang, on a cette même chose. Il a une seule identité, une seule référence. Et ils sont prêts à se sacrifier pour chaque individu dans ce groupe. La deuxième expérience, c'est sur les valeurs sacrées. Une fois que vous croyez que ces valeurs ne sont pas négociables, par exemple, si on vous offre de l'argent pour vos enfants, vous n'acceptez pas. Vous pensez que c'est même fou, mais selon les théories classiques en économie et politique, tout est fungible, tout est changeable. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des valeurs qui sont absolues et on ne peut pas sacrifier. Quand ces deux facteurs interagissent, sont indépendants, mais quand ils interagissent, vous créez des groupes qui sont prêts à battre jusqu'à la mort. Et on a trouvé ça avec deux groupes principaux. On a trouvé ça avec les combattants de l'État islamique, mais surtout les volontaires étrangers, beaucoup moins chez les locaux, et deuxièmement avec les combattants de PKK et de YPG. Au début, on n'a trouvé pas ça avec le Peshmerga, parce qu'au début, le Peshmerga, en 92, quand les États-Unis ont établi le no-fly zone, qui a permis l'établissement du gouvernement régional kurde, le Peshmerga, à peu près 200 000 personnes, sont devenus un groupe social quelconque. Le bide commençait à prendre le dessus sur le corps athlétique. Et puis, ils étaient des montagnards, des soldats de montagne. Et les plaines de Mésopotamie, où l'État islamique est venu, avec les armes qu'ils ont capturées, les tanks de la Russie et soviétique, et avec beaucoup de véhicules blindés capturés américains de l'armée Irak, quand ils sont venus, c'était, on pouvait les stopper, on ne pouvait pas. Et là, Barzani appelait Obama, qui était dans un restaurant, c'était au début de août, 2014, et il a dit à General Dempsey et à Lloyd que vous avez 80 minutes avant que l'Irak tombe, avant que le Kurdistan, peut-être tout l'Irak tombe. Et c'est en envoyant les avions américains qui ont stabilisé le périmètre et qui ont stoppé l'expansion en Irak, au moins au nord d'Irak, de l'État islamique, que les Peshmerga se sont ressaisis. Ils sont presque au niveau maintenant, j'étais avec des gens qui ne sont pas partis depuis 14 mois, il y a des gens sans jambes, des mitrailleurs, il y a des gens de plus de 70 ans qui sont sur le front, qui luttent quotidiennement, et c'est très impressionnant ce changement.
Hacham Daoud, cette méthode d'analyse décrite par Scott Atran qui permet de voir quelles sont les motivations à aller se battre et surtout quels sont les combattants qui sont le plus prêts à faire le sacrifice de leur vie. C'est une méthode proprement anthropologique. Ça rappelle d'autres travaux qui ont pu être faits, notamment sur les Einsatzgruppen au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire la fusion entre l'individu et le groupe.
Oui, c'est tout à fait là. Justement, j'attendais à ce type d'explication que peut-être dans d'autres travaux de Scott Atran, on va voir des détails davantage.
Il faut rappeler que c'est un petit livre quand même, comme l'a dit Antoine, un livre choc qui appelle à réveiller les consciences.
Avec des textes qui adressaient, et d'ailleurs c'est écrit simplement bien écrit, je crois, à un public beaucoup plus large, a sorti beaucoup de recommandations. On voit qu'il est adressé à un public beaucoup plus large qu'un public universitaire. Donc, on sent ici. C'est plus intéressant, c'est vrai, quand on vient un petit peu pour décortiquer et puis déconstruire les questions de terrain et avoir l'attachement des gens de la région, des gens, des personnes, etc. Une fois, il y a un acteur majeur américain, c'est Magog, par exemple. Il pose des questions pour une petite ville irakienne qui s'appelle Hit, qui vient tomber entre les mains de l'armée irakienne. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe à Hit? Pourquoi on a de mal à apprendre cette ville-là? En fait, c'est la même tribu, Al-Bounamer, qui se trouvait divisée. Il y a une partie qui était tout à fait de côté de Daesh contre de l'autre. On avait une forme de guerre presque positionnelle entre deux maisons dans l'intérieur d'une même famille. C'est ce que Daesh a réussi. C'est ce qui fait, c'est très intéressant de voir la degré de fusion entre les combattants étrangers qui évoque ici Scott, et avec l'appartenance au combat des Irakiens et des Syriens, est beaucoup plus facile de négocier avec les Syriens et les Irakiens pour trouver une porte de sortie, peut-être un compromis politique après Daesh, qu'avec les combattants étrangers. Oui. D'où le livre de questions de rupture. L'emblème de Daesh, le livre de Scott Atran, est davantage en rapport avec le combattant qui se trouve à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dans le milieu des décideurs, aujourd'hui, on pose la question, nous sommes presque dans l'après-Daesh. Il faut préparer des plans, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on discute maintenant. Donc, dans l'après-Daesh, il y a d'expériences au niveau international qui se passaient. Il y a en Amérique centrale, Amérique latine, en Afrique. Avec un tel réseau phénoménal de Daesh, avec 30-40 000 combattants, qu'est-ce que ça va donner une fois cette défaite Mosul et Raqqa? Raqqa, se trouve au bout du canon de Kurdes. Et le combattant irakien avec de Kurdes, etc., il se trouve à quelques kilomètres de Mosul. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Après, peut-être le scénario le plus plausible, on va avoir une multitude de réseaux criminels, mafieux, et puis des gens manipulables qui vont se déverser dans la nature. Avec un État aussi faible que l'État irakien, nous aurons de mal à maîtriser cette forme de multitude. Voilà le type de problème. Je crois l'après-Daesh qui pose un énorme problème, et non pas la prise de Mosul et Raqqa.
Scott Atran, c'est ce que dit Hochem Daoud. Donc il faut, on pense d'ores et déjà à l'après-Daesh. Ce livre se veut aussi comme un livre qui produit des analyses pour le politique, voilà, c'est une utilité politique de vos analyses, Scott Atran. On en est déjà là? Penser l'après Daesh?
Bien sûr, il faut penser à, mais c'est un peu
prématuré, non? Oui.
De penser que Daesh va s'écrouler. Je suis souvent dans mon équipe. Il y a aussi le général Stone qui était le sous-commandant des forces internationales. Général de marine.
C'est pas un plus pour vous, parce qu'il était quand même le directeur de Boka.
Non, c'est lui qui a démantelé Boka. Il est venu après Abu Ghraib et Boka. Il était
parce qu'il était Navajo. Il était aussi au fait que vous.
Il était indien. Non, c'est très intéressant. Il est venu sur Boka.
Boka donc.
Camp Boka, et c'est lui qui a averti aux autorités que là Daesh se forme. Il a dit, il est arrivé, il y a 30 000. Il y avait 30 000 personnes dans le campement, dans 30 campements de 1000 chacun, où les prisonniers avaient le droit de choisir quel campement ils voulaient, et ils bougeaient dans ces campements, ils avaient leur propre cours, leur justice, leur propre exécution, et les forces américaines ne pouvaient pas y entrer. Donc, General Stone a proposé de démanteler tout ça.
Donc, ce camp de Boka, oui.
De vider Abu Ghraib, ce qu'il a fait, d'ailleurs. Mais il a dit, il a averti, il était le premier à avertir, il a dit, écoutez, les gens de Al-Qaïda, dont il a interviewé 4000, et les dirigeants baptistes qui étaient forcés d'abandonner leur poste et les dirigeants étaient en prison, ont commencé à se fusionner, à réunir et former un noyau très très dur. Au même temps, il y avait ce qu'on appelle le surge américain. Le surge américain a réussi à tuer, à liquider entre 60 et 80% de tous les effectifs d'Al-Qaïda, du groupe Zarqawi, et d'éliminer 10 à 15 dirigeants par mois pendant 15 mois consécutifs. Et elle a survécu. C'est-à-dire, il avait une structure, une organisation, une cohérence de pensée et d'agir qui était très très fort, beaucoup plus fort. Ils se reculaient en Syrie, mais ils étaient les seuls qui étaient vraiment, vraiment, vraiment organisés. Et le noyau qui était dans Boka, avant que Stone est arrivé, est devenu l'État islamique. Alors,
Non, non, mais je vous en prie, Scott Atran, ce qui est intéressant, et peut-être pour nos auditeurs, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, avec cet exemple très très précis du camp de Bouka, c'est qu'on retrouve l'idée générale de votre livre, c'est-à-dire la force justement des idées, la force des idéologies, on pourrait dire, l'idée que voilà ce qui est offert aux combattants qui viennent, et notamment aux combattants non locaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une dynamique positive, une dynamique même heureuse, vous dites, pour rejoindre Daesh, et c'est ça oui. qu'il faut bien comprendre.
Oui. Et ce qui pose quand même juste une question, peut-être une objection, parce que on peut imaginer que vous êtes en train de valoriser finalement cette option. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure avant l'émission que Daesh avait repris sur son site une partie de votre livre. Donc, oui. Est-ce que vous êtes un allié objectif?
Oui, mon but de faire le livre, c'est de comprendre ce qu'est Daesh pour mieux le combattre. Ce que Daesh trouve quelque chose de vérité dans ce livre, je ne sais pas pourquoi il le publie, qu'est-ce qui l'intéresse pour eux, j'en sais pas. Mais ce que je sais, dire la vérité, ce que je pense la vérité, on ne sait jamais si c'est la vérité ou pas, dire la vérité sur le Daesh, ça vaut beaucoup mieux que l'illusion, la délusion de dire, par exemple, « Ah, l'État islamique, c'est ni l'État ni islamique, donc il ne faut pas l'appeler l'État islamique. » C'est tellement ridicule, même stupide, de penser avec ces jeux de mots, on va arrêter ces mouvements révolutionnaires, au lieu d'examiner au fond, à comprendre. Si quelqu'un veut te tuer, c'est mieux comprendre pourquoi il veut te tuer, si vous voulez, si tu veux le stopper. Mais je veux dire quelque chose sur le travail de terrain et aussi sur l'équipe. Il y a le général Stone, qui est plus général maintenant, mais on a aussi Lydia Wilson, par exemple, c'est fondateur de Cambridge Literary Review, un poète qui a fait son doctorat à Cambridge sur la mathématique médiévale arabe. On a Hoshang Waziri, qui a gagné le prix de meilleur en kurde, meilleur... playwright, meilleur dramaturge arabe, sont dans l'équipe aussi parce que eux, ils comprennent comment, je les entraînais aussi, comment prendre des mesures scientifiques et l'adapter au royaume des idées et de l'esprit. Alors, on a commencé avec les expériences de façon très intéressante, utilisant la théorie de l'évolution. Surtout les descendants de l'homme par Darwin, où il demande pourquoi il y a des martyrs, pourquoi il y a des héros. Il a dit, ça ne s'explique pas par la sélection naturelle des individus pour la survivance et la reproduction. Il a dit, ça pose un grand problème. Mais il le résout de cette manière. Il a dit, une société qui a des héros et des martyrs, prêts à mourir, même les plus forts qui sont prêts à mourir, dans une cause apparemment perdue, s'il y a une société, à un certain nombre de ces gens, ils vont attirer des autres et ils vont gagner dans la compétition pour la dominance et la survivance du monde. Donc, cette notion est très forte. Et quand on était là, on voyait que les gens qui avaient ces deux facteurs, fusionnés et valeurs sacrées, ils se voyaient plus forts. Mais le PKK est... L'État islamique nous a dit non. C'est pas juste cette force matérielle qui est importante. C'est la force spirituelle, pas le Mahdi, Manoui. Et comment on capte cette force spirituelle? On a réussi à développer des expériences qui sont très révélateurs là-dessus.
Un tout petit mot, Hacham Daoud, parce qu'on arrive vraiment au bout de cette émission.
Oui, un peu rapidement. Sur la question de l'attirance, la sublimation de Daesh, je suis, à partir de terrain, je ne crois pas. Daesh, c'est un ancrage local, c'est une rupture avec Al-Qaïda sur cet aspect-là. Il n'y a pas l'international Daesh à partir de Mosul et de Raqqa. En revanche, il y a une force d'attirance, de modèle, d'emblème, de fonctionnement, d'identification davantage. Je ne crois pas qu'Al-Baghdadi va donner l'ordre pour qu'il y aura l'international de Daesh pour faire telle ou telle chose ailleurs. Mais la seule chose, il y a d'emprunts, il y a des échanges qui se passent, il y a des combattants qui passent en Libye, etc. Mais Boko Haram qui apporte allégeance à Daesh, et Boko Haram, il devient, je ne crois pas, en Afghanistan, au Pakistan, etc. Donc sur cet aspect-là, Daesh, ça quand même reste, je vous donne un seul exemple, dans la branche militaire de Daesh en Syrie, il y en a très peu d'Irakiens, Et dans la branche militaire de Daesh en Irak, il y en a très peu de Syriens, ce qui veut que les gens ils sont attachés beaucoup plus à l'ère locale qu'à une question de dimension globale.
Ben voilà, le débat est lancé. Désolé Scott Atran, on arrive au bout de cette émission. On a compris qu'il y a deux visions, en tout cas, qui sont en discussion, puisqu'elles ne s'opposent. Voilà, une dimension globale, internationaliste, dimension locale. Les deux sont importantes pour comprendre ce à quoi nous devons faire face. Et pour comprendre, il faut lire, évidemment, L'État islamique est une révolution. Ce livre, Scott Atran, que vous publiez au Lien qui libère. Merci d'être venu nous en parler. Aujourd'hui, la grande table s'est terminée. On va pouvoir remercier, évidemment, toute l'équipe, Henri Leblanc, Jeanne Alléos, Clémence Marie et notre stagiaire Lucie Aubourg. À la réalisation, comme chaque jour, c'était Philippe Baudouin, et à la technique, Jean-Guilain Meige, Edouard Rubinstein, Nicolas Delmas. Merci tout de même à l'interprète Robert Wolfenstein. Vous n'avez pas eu beaucoup de travail, mais merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci pour la permission.